Radio Kapi. Oh, Kapi.
C'est parti pour la session ordinaire de l'examen d'État édition 2020-2021 dans toute la RDC. C'est pour 4 jours. Au sud Kivu, tout est fin prêt, même dans les écoles consulaires de Burundi et de Tanzanie. Mais à Beni territoire, malgré l'assurance du sous-proved, l'insécurité grandissante dans la région ne rassure pas les autorités scolaires. Des miliciens FRPI en errance attaquent quotidiennement des pâturages et tuent des vaches, ce qui pousse les éleveurs à fuir. Cela se passe dans le secteur de Bahima Sud, territoire d'Irumu en Ituri. Plusieurs voix s'élèvent pour condamner ce phénomène. Vous entendrez à ce sujet le député provincial Wilson Mugara. Et puis, l'invité de ce matin, Gisèle Ndaya, ministre du Genre, Famille et Enfants, de passage à Lubumbashi, elle nous parle du phénomène enlèvement des enfants dans le Haut-Katanga, les viols des femmes dans les prisons et le travail des femmes dans les carrières minières. Madame, Messieurs, bonjour. C'est aujourd'hui que débutent les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2020-2021 sur toute l'étendue de la RDC. Les élèves finalistes du secondaire passeront 4 jours d'épreuves. Le coup d'envoi sera lancé tout à l'heure à Kenge, dans la province du Kwilu, par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Au sud Kivu, toutes les malles des items de l'examen d'État sont déjà déployées dans tous les centres respectifs, même à Minembwe et aussi dans tous les centres des écoles consulaires de Burundi et de Tanzanie. Les derniers réglages ont eu lieu hier en présence des inspecteurs de l'enseignement, plus de détails avec Emmanuel Elamegi.
La province éducationnelle Sud Kivu 1 est prête à accueillir plus de 33 000 finalistes ce lundi 30 août 2021. Toutes les dispositions sont prises à Kabare, Kale, Walungu et Idui. Joseph Diangenda, inspecteur principal provincial Sud Kivu 1.
Aujourd'hui, tout est prêt. Nous avons déjà eu à faire parvenir toutes les malles dans tous les pôles lointains. Il n'y a pas à s'inquiéter. Les filles, c'est 17 647. Les garçons, c'est 16 060.
Dans la partie sud, la MONUSCO a facilité le déploiement des malles des items à Minembwe. Même dans la plaine de la Ruzizi, tout est prêt. Monsieur Émile Kimpumpu Munkina, IPP Sud Kivu 2.
Pour le moment, nous sommes à ouvrir où se passera le lancement. Je suis en train de me rendre à Luvungi pour déposer la malle de Luvungi, Sangue et Lemera. La malle qui nous posait un peu de problèmes, c'est celle de Minembwe, mais la MONUSCO nous a aidé à amener ça depuis hier. Et donc, à ce stade, tout est fait prêt.
De même, tous les centres des écoles consulaires de Burundi et de Tanzanie sont servis. Ils attendent près de 2000 élèves finalistes congolais. Emmanuel Elamejwa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Au Nord Kivu voisin également, tout est fin prêt pour le démarrage des épreuves de l'examen d'État dont la sous-division de l'EPST Beni assure le sous-proved Matsoro Lengue Olivier. Cependant, dans le territoire de Beni, l'insécurité grandissante ne rassure pas les autorités scolaires quant à la passation de ces épreuves. Dominique Kambal est sous-proved de Boulongo, craint que certains élèves ne se présentent pas après l'attaque de vendredi dernier dans le groupement Bouliki, secteur de Rwenzori, et celle de Oicha dans la soirée de samedi, des attaques qui sont à la base du déplacement des populations, dont des élèves. Le sous-proved de Boulongo plaide pour la sécurisation des centres de passation d'examen. Dominique Kambal et Sondiria, joint par Guylaine Kassassia.
Personnellement, je ne peux que déplorer cette situation. Nous sommes vraiment nous-mêmes très embarrassés par cette situation de sécurité qui a perduré. Mais par rapport au préparatif de l'examen d'État, au niveau de Boulongo, tout va bien. Nous sommes en train, les 7 décembre sont déjà là, ils sont en train de réunir les intervenants. Mais notre inquiétude se trouve au niveau de Bouliki, où il y a le centre de Maboya, en sous-division de Kiondo, qui accueille nos élèves là-bas. Donc, ici, nous n'avons pas encore beaucoup d'assurance. Tous les enfants vont se présenter, mais vraiment, nous regrettons. Si vraiment les effectifs doivent encore diminuer, on avait déjà une grande diminution au niveau de la hors session. Si on doit encore avoir des diminutions, ce serait vraiment dommage qu'il y ait des finalistes qui manquent leurs examens. Alors, nous ne pouvons qu'implorer l'intervention de l'autorité politico-administrative pour assurer les différents centres pour que les examens se déroulent dans un bon climat.
Rappelons que lors d'une réunion de sécurité tenue vendredi dernier, le gouverneur du Nord Kivu avait rassuré de la sécurisation de tous les centres de passation d'examen d'État dans la région de Beni. Par ailleurs, des sanctions sévères seront infligées aux inspecteurs, chefs des centres et aux chefs d'établissement qui vont orchestrer des fraudes lors de la passation de l'examen d'État dans la province du Maïndombé. Cette mise en garde est du ministre provincial de l'EPST, Ambroise Nkele Nkosi. Il invite les parents à ne payer que 60 000 francs congolais officiellement exigés pour la participation à ces épreuves. Le ministre provincial de l'EPST du Maïndombé s'exprime au micro de Irène Mboma.
On va sanctionner ces inspecteurs-là, tous ces chefs de centre qui vont permettre le fraude au centre d'examen d'État. Et nous sommes venus combattre tous ces gens-là qui marchent dans la malhonnêteté. Nous allons les traquer, nous allons suspendre, nous allons sanctionner tous ces inspecteurs qui oseront cette fois-ci autoriser à ce qu'il y ait des fraudes dans leur centre et qu'ils laissent les enfants travailler d'eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est les parents eux-mêmes qui favorisent tout ça parce que les enfants n'étudient pas. Il a l'enfant à la maison, l'enfant n'étudie pas. Les frais fixés, c'est à 60 000 sur toute l'étendue de la province. Un enfant qui déclare 80 000, 100 000 francs congolais aux parents et les parents qui parviennent à se rendre devant le chef d'établissement payer les 80 000. Nous disons, nous allons contrôler aux chefs d'établissement qui vont percevoir au-delà de ce que le gouverneur a fixé. Et on va même sanctionner ces chefs d'établissement en complicité avec les parents. Et le système des maquis, c'est proscrit, le système n'est pas autorisé. Alors les enfants qui aillent au maquis là ne font absolument rien.
Direction le Kasaï oriental. Plus de 200 élèves orphelins ont reçu chacun un kit scolaire et un autre alimentaire, dont de l'ONG Djoukaoutante, un centre de formation socio-professionnelle en faveur des femmes et filles mères en situation difficile. Cette ONG travaille en partenariat avec la Fondation Rêve Congo du Canada. La cérémonie de remise de ces kits a eu lieu samedi dans la salle Mpokoloa Moyo, en présence du ministre provincial de l'Éducation et du coordonnateur diocésain des écoles conventionnées catholiques. Reportage de Esther Ndalafina.
À quelques jours de la fin de l'année scolaire, l'ONG Djoukaoutante a tenu à garantir la scolarité de plus de 200 élèves orphelins en leur offrant des kits scolaires pour l'année 2021-2022 et quelques kilos de farine de maïs pour assurer leur sécurité alimentaire pendant les vacances. Jean-Paul Ngeleka, prêtre du diocèse de Mbujimayi vivant au Canada et initiateur de l'ONG Djoukaoutante.
Le kit est composé des uniformes, des chaussures, des cahiers, des stylos, des crayons pour toute l'année. L'objectif, c'est de former l'élite de la province. J'investis dans les capitales humains.
Jean-Marie Ntamboa a quant à lui retenu une leçon sur la générosité envers les orphelins.
Moi, je dirais ici seulement que quand tu seras même gouverneur, il faut prendre aussi un orphelin en charge.
Présent à la manifestation, les coordinateurs diocésains des écoles conventionnées catholiques s'engagent à sensibiliser ces orphelins à prendre leur destin en main.
J'ai dit à M. l'abbé, moi comme coordinateur de diocésain, je vais vous aider à suivre ces enfants. J'aurai toujours à dire à ces enfants, organiser des rencontres.
Signalons que l'ONG Djoukaoutante a aussi remis des fonds à certaines familles qui vivent avec les orphelins bénéficiaires de la bourse. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, le couple Rubens Mikindo, ministre honoraire des hydrocarbures, a remis ce week-end des vivres et non-vivres au Centre national pour aveugles de Mangafula, qui se trouve dans un état d'abandon, selon eux. Cet établissement avait été conçu pour l'Afrique centrale en 1972 par la regrettée première dame Marie-Antoinette Mobutu. Le centre hospitalier, le dortoir et les salles de classe de la maternelle, primaire et secondaire manquent de tout. C'est un constat de Pascal Massirika.
Le coordonnateur, lui-même non-voyant, parle d'une aubaine après des lustres. Jean Moulumba wa Moulumba tire la sonnette d'alarme.
Nous avons mal terminé l'année avant la rentrée scolaire qu'on nous paye à titre exceptionnel. Nous apprenons à dilapider des millions de dollars. Pour nous payer, c'est comme si nous étions étrangers. Même les étrangers qui sont chez nous sont même heureux que nous autres.
Rubens Mikindo promet de mener un plaidoyer en vue de restaurer ce centre.
Étant voisin de cette école, c'est de sensibiliser les décideurs. Tout ça va nous permettre de mettre fin à ces phénomènes de la mendicité sur la route, parce que nous sommes en train d'échanger avec la coordination de cet institut comment on peut faire pour arriver à éradiquer ces phénomènes de mendicité des aveugles sur les artères principales.
L'événement a eu pour point d'orgue cette interpellation des jeunes aveugles.
Vous vous, chères autorités. Pourquoi quand vous me rencontrez sur la route, vous me considérez comme un objet de moquerie, de critique et de mépris? Vous me marginalisez.
Vous, chers parents, vous me considérez comme un sorcier et vous oubliez que nous sommes tous créés à l'image de Dieu.
Notez que le Centre national pour aveugles de Mongafula est placé sous la double tutelle des affaires sociales et de l'enseignement primaire, secondaire et technique.
Je vous le disais en titre, en Ituri, plusieurs voix s'élèvent pour condamner le phénomène de vol des bétails dans le secteur de Baïma Sud, territoire d'Irumu, par des éléments non contrôlés de la FRPI. Le dernier cas date de samedi 28 août au village Kikoga, groupement Mbudikaka, où 400 bêtes ont été emportées par ces malfrats, selon des notables de cette entité qui le rapportent. Des miliciens FRPI en errance dans la région proche de la rivière Semuliki attaquent presque chaque jour différents pâturages et tue des vaches, ce qui pousse les éleveurs à quitter cette zone. Wilson Mugara, l'un de ses notables, salue cependant l'intervention des militaires FARDC qui ont réussi à récupérer une cinquantaine de bêtes. Il demande aux autorités militaires de renforcer l'effectif des FARDC dans cette région pour sécuriser ces éleveurs et leurs bêtes. Le député provincial Wilson Mugara, joint par Martial Kizabiamungu.
Nous avions une fois sollicité même le gouverneur militaire, nous avions même suggéré l'administrateur des territoires d'Irumu, qui est aussi le colonel militaire, pour qu'on puisse quand même vraiment, en tout cas, déployer nos forces loyalistes tout au long de ces villages, notamment qui avaient subi les atrocités des ADF Nalu, Bourassi et Kikoga. Parce que le fait qu'il n'y a pas assez de militaires dans ces coins-là, des fois, les égarés même de ce pays tentent à tout moment de déranger nos éleveurs, et en pillant leur bétail, en faisant tout ce que vous connaissez comme exaction. En tout cas, ça ne se passe pas une semaine, deux semaines, sans qu'on soit alerté par les éleveurs de ces coins-là. Je pense que nous avons à tout moment toujours à remonter les informations auprès des autorités compétentes pour qu'en tout cas, qu'on puisse essayer un peu de sécuriser nos éleveurs.
Province du Haut-Touélé, des militaires en patrouille ont arrêté dans la nuit du 26 au 27 août deux éléments Mbororo dans le territoire de Niangara. Selon le ministre provincial en charge de l'intérieur et sécurité, ces militaires ont notamment violé la loi congolaise en circulant avec les armes de guerre. Ils doivent répondre de leurs actes devant la justice congolaise, a dit Crispin Alibou. Le point avec Jacques Moukonkolé.
L'arrestation de ces deux éleveurs étrangers Mbororo, rapportée par la société civile de Niangara, est confirmée par le ministre provincial en charge de l'intérieur du Haut-Touélé. Crispin Alibou précise qu'il s'agit des deux sujets centrafricains surpris en flagrance avec une arme AK-47. En outre, souligne-t-il, ce sont eux qui avaient tué quatre personnes le 18 août dernier dans la localité Makpangi en territoire d'Ango. Ils ont été transférés à l'état-major des FRDC à Dungu. Par ailleurs, Crispin Alibou déplore l'assassinat des quatre autres personnes égorgées par des Mbororo dans la chefferie Malingindo en territoire de Dungu. Cette situation se justifierait par le fait que dans cette entité, les forces de l'ordre et de sécurité sont totalement absentes, laissant ainsi libre cours à la loi de la jungle.
Vous savez que par exemple à notre niveau provincial, nous n'avons pas même mis sur l'armée. L'effectif des policiers est vraiment très réduit. Mais l'armée, on fournit des rapports. On a toujours demandé qu'on puisse déployer les éléments de FATP dans ce coin. Jusque là, nous attendons toujours.
La société civile espère que la justice militaire fera son travail. En attendant, les autorités devront faire diligence pour sécuriser cette zone abandonnée aux hommes incontrôlés de tous bords. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Retour au Nord Kivu. La fondation du jeune artiste musicien Innocent Baloumé a construit des maisons pour les sinistrés de l'éruption du volcan Niragongo du 22 mai dernier, situé au quartier Lac Vert à l'ouest de Goma. Ces maisons sont construites dans une concession nommée Cité Umoja. Ce projet est réalisé grâce à la campagne de solidarité lancée par Innocent Fondation. Objectif, redonner un sourire à une dizaine de familles sinistrées, indiquent les proches de l'artiste. Rosalie Zawadi a visité la Cité Umoja. Voici son reportage.
Sur la route Goma-Sakié, après l'entrée principale de Bouimba, une petite pancarte indique l'entrée de cette cité à 200 mètres de la route dans le quartier Lac Vert. La cité est dans une concession clôturée avec les logos de Innocent Foundation ainsi que les noms des personnes physiques et morales qui ont contribué à la réalisation de l'œuvre. Selon les responsables de l'entreprise Yubi Construction, maître d'ouvrage, toute la concession s'étale sur 46 mètres de long sur 20 mètres de large. Elle contient 10 maisons en planches de 6 mètres sur 5 chacune. Chaque maison est composée de 2 chambres et d'un salon avec une cuisine ayant sa porte secondaire. Des installations sanitaires communes sont placées tout au fond de la concession et attendent une touche de finissage. Les travaux de construction, commencés début juillet, ont pris 45 jours, précise Bernard Bahati, responsable de Yubi Construction. D'après les informations publiées sur les plateformes officielles de la Fondation et de l'artiste, au total 66 000 dollars américains ont été collectés auprès des partenaires de l'artiste pour parvenir au résultat d'aujourd'hui. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Actualité, Afrique Monde.
Le nombre de pays dont les résidents peuvent entrer sans restrictions sanitaires dans l'Union européenne va de nouveau être réduit à partir de ce lundi 30 août. Une nouvelle carte épidémiologique du monde, adoptée vendredi, va de nouveau limiter le nombre de pays considérés comme suffisamment sûrs par l'Union européenne. Les 27 ont laissé leurs frontières ouvertes à leurs partenaires de l'espace économique européen, Suisse, Norvège et Islande, ainsi qu'aux 4 micro-États enclavés en Europe. Tous les autres pays du monde sont régulièrement évalués à l'aune de leur taux d'infection au COVID-19, de leur vaccination, et les États-Unis font partie des pays qui ne sont plus suffisamment immunisés pour entrer en Europe.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Gisèle Ndaya, ministre du Genre, Famille et Enfants, de passage à Lubumbashi. Dans un entretien à Radio Kapi, elle revient entre autres sur le phénomène enlèvement d'enfants dans le Haut-Katanga, les viols des femmes dans les prisons et le travail des femmes dans les carrières minières. La ministre du Genre, Famille et Enfants répond aux questions de Jean Gandou.
Madame la ministre, bonjour.
Bonjour.
À Lubumbashi, il y a un phénomène de kidnapping d'enfants. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce phénomène.
Effectivement, il y a un mois, j'étais ici à Lubumbashi, quand j'étais reçu par le gouverneur de la province. Il y avait même monsieur là, un motard, qui a kidnappé un enfant d'une année. Pour moi, je pensais que ce phénomène était éphémère, mais j'ai l'impression que ça continue toujours dans la province du Haut-Katanga.
Comment y mettre fin?
C'est un problème de responsabilité de part et d'autre. Et les questions que le parent puisse quand même prendre conscience de protéger les enfants, parce que c'est de leur devoir, et aussi voir au niveau des autorités provinciales les mécanismes à mettre en place pour éradiquer ce phénomène, parce que ça devient un peu inquiétant par rapport à la population.
Mais curieusement, les parents ne veulent même pas dénoncer ce genre de faits. Est-ce que ça n'inquiète pas?
Mais c'est ça. Bon, on a échangé avec le gouverneur. Il a présenté le problème au Conseil de sécurité. De son côté, il a mis déjà des moyens pour que les parents se manifestent, pour qu'on essaie un peu d'identifier les gens qui sont derrière ce phénomène. Mais jusqu'aujourd'hui, apparemment, les parents ne veulent pas dénoncer les cas vraiment connus dans des quartiers. Moi aussi, je pourrais peut-être demander à la population, aux familles, d'accompagner l'autorité provinciale pour permettre l'autorité à éradiquer vraiment ce phénomène-là dans la province.
Un autre phénomène, ce sont les cas des viols des femmes qui sont en prison. Très peu sont prises en charge. Que comptez-vous faire pour arriver à les aider?
Il y a deux systèmes mis en place pour accompagner ces femmes violées. D'abord pour la prise en charge, parce que quand cela arrive, 72 heures après, il y a le PEV qu'on donne aux femmes pour éviter qu'il y ait des maladies sexuellement transmissibles et aussi des grossesses non désirées. Aussi, au niveau de la justice, je crois que je ferai mon plaidoyer auprès de la ministre d'État, ministre de la Justice, pour essayer de revoir un peu les conditions de femmes dans des prisons. Parce que on doit avoir vraiment une prison uniquement pour les femmes et une autre prison pour les hommes pour éviter que ces cas se répètent de temps en temps.
Parlant des femmes de la prison de la Kasapa, est-ce que vous avez eu le temps de les rencontrer, celles qui ont été victimes?
La fois passée, quand j'étais ici, j'ai eu le temps d'échanger avec elles. Mais comme vous le savez, dans cette circonstance, j'étais accompagné des autorités. provinciale de la justice. La dénonciation des bourreaux était un peu difficile, mais elles sont suivies par les structures spécialisées par rapport à cela.
Mais il n'y a pas que Kasapa, il y a d'autres prisons à travers la province, il y a aussi même des cachots.
Moi, je crois que j'aurai le temps de demander au Premier ministre pour qu'on ait une mission conjointe avec la ministre d'État, ministre de la Justice. Oui, c'est un peu de faire cette mission dans cette province du Haut-Katanga parce que on constate que ces cas se font que répéter un peu partout. Dans des territoires, voire dans des grandes villes, il y a Likasi et aussi Lubumbashi.
Il y a également des femmes que l'on trouve dans les carrières minières. Plus d'une fois, on a tiré la sonnette d'alarme pour qu'elles quittent ces carrières, mais elles continuent toujours à y être.
Bon, c'est un problème de sensibilisation. Nous avons un programme que nous avons mis en place pour essayer un peu de terminer ce phénomène. Comme vous le savez vous-même, la femme s'occupe plus de la famille. Aujourd'hui, il y a de ces femmes qui se sont retrouvées sans mari, il y a de ces femmes qui ont des enfants et qui ne savent quoi faire. La raison qu'elles donnent toujours, que c'est comme ça qu'elles se retrouvent dans des carrés minières, empêche nous, en tant qu'autorité, de continuer toujours à les sensibiliser et trouver autre moyen pour leur permettre de survivre.
Comme quoi, par exemple?
Dans mon programme au niveau du gouvernement national, le pilier pour mon ministère, il y a l'autonomisation de la femme. Cette autonomisation, nous avons des mécanismes que nous avons mis en place, par exemple, créer de mutuelles financières pour les femmes et aussi de banques de crédit qu'on pourra peut-être disposer aux femmes pour leur permettre de faire leur commerce. Vous savez que la femme actuellement ne vit que de commerce informel.
Madame la ministre, je vous remercie.
Et je vous en prie, monsieur le journaliste.
Notre invité, la ministre du Genre, Famille et Enfants, était avec Jean Gandou. C'est la fin de ce journal, supervisé par Ben Kabamba, coordination de Richard Junior Kamunga. Vous pouvez le retrouver sur notre site www.radiocapi.net. Merci de votre attention.